Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez RMC.
Et on s'intéresse, messieurs, dames, à la Coupe du Monde. Plus que 8 dodo.
RMC, Coupe du Monde de la FIFA 2022,
J-8. Eh oui, J-8 avant le début de la Coupe du Monde qui sera à vivre sur RMC, évidemment, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. J-10 avant le premier match des Bleus contre l'Australie. C'est le dernier week-end dans le club. Et ce soir dans l'after, on prend des nouvelles de nos très nombreux mondialistes sur les pelouses aujourd'hui. Ils étaient beaucoup en Allemagne et en Angleterre. Polo Breitner est là, salut Polo.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Et Julien Laurent,
salut Polo.
Salut Julien.
Salut Juju.
Salut Thibaut, salut à tous.
Salut les gars.
Polo, on va commencer par toi parce que en fait, t'as vu une demi-équipe de France toi cet après-midi.
Oui, si on subodore que Nkunku sera titulaire à la place de Griezmann par exemple, ce qui serait pourquoi pas une mauvaise idée, j'ai le sentiment. Oui, honnêtement, donc les cinq mondialistes français étaient titulaires, les quatre du Bayern plus celui de Leipzig. Leipzig et le Bayern se déplaçaient chez les promus respectivement Schalke et le Werder. Ils ont fait le boulot, ça a été compliqué pour au Werder, ça a été plus facile pour le Bayern à Gelsenkirchen. Ce ne sont pas les Français qui ont brillé, honnêtement, mais si tu vois le match Schalke-Bayern, c'est Moussiala qui nous a encore fait de la technique, qui nous montre ce que c'est. Gnabry qui revient en très grande forme. Les Français, évidemment, étaient en défense. Pavard était en défense centrale. On avait Kimmich côté droit. Hernandez, évidemment, arrière-gauche. Kingsley Coman, qui avait longtemps été blessé, absent, ou qui jouait qui avait le droit souvent à 20 ou 30 minutes, a été titulaire pendant 80 minutes. Il a fait un bon boulot. Et du côté de Leipzig, évidemment, Ken Kunku a toujours été titularisé, 90 minutes encore. Mais c'est un autre mondialiste qui a marqué des points. C'est le Portugais André Silva. Donc voilà, on va dire que les Français sont là, mais ils ont moins brillé que les week-ends précédents.
On va s'y attarder un peu, quelques minutes, notamment ceux du Bayern. Déjà, tu nous confirmes qu'aucun n'est sorti blessé.
Aucun n'est sorti blessé, ou pas Mécano était titulaire, donc voilà.
Parfait. On va y revenir en détail dans un instant. Direction l'Angleterre, prendre un peu la température. Ce soir, tu peux nous rassurer sur Konaté. Julien, il y a eu une petite alerte, il devait être titulaire avec Liverpool contre Southampton. Finalement, il n'a pas joué, absent de dernière minute.
Ouais, c'est vrai qu'il a pas joué. Il avait reçu un coup le week-end précédent contre Tottenham, qui était encore un peu douloureux. Donc, on a préféré pas prendre de risque ni du côté de Liverpool ni du côté d'Ibrahima Konaté, bien sûr, avant la Coupe du Monde, un match à domicile contre Southampton où Joe Gomez pouvait très bien faire le travail, ce qu'il a fait d'ailleurs, même s'ils ont concédé un but lors de la victoire. Mais c'était pas très grave non plus pour Ibrahima de pas être là, de rater cette rencontre là, et il a pu se reposer et il sera lundi à Clairefontaine au rendez-vous des Bleus comme tous les autres.
Des nouvelles de notre capitaine qui jouait aujourd'hui et qui a pris quelques buts. Tottenham a gagné contre Leeds, mais Hugo Lloris s'est fait transpercer là.
Ouais, il a pris 3 buts effectivement, t'as raison. 2 arrêts, 3 buts dans les 90 minutes qu'il a joué. Les expected goals qu'il a fait face, était 2,01, donc il a concédé peut-être un petit peu plus que ce qu'il aurait dû entre guillemets, pour ceux qui aiment la data et les stats. Après, moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher non plus, mais c'est vrai que 3 buts, ça fait beaucoup dans un match très ouvert que Tottenham a finalement gagné. Donc Hugo était très content, bien sûr, en fin de match. En plus, encore une fois, montrer encore cette force de caractère, comme on a vu à Marseille, comme on a vu encore récemment à Bournemouth aussi en championnat. Ils se rendent pas la vie facile, les Spurs, et Hugo non plus, mais c'est vrai que cette victoire, elle va faire du bien juste avant la pause, malgré les 3 buts concédés.
Lio, rassure-nous, on peut être gardien de but, prendre 3 buts et avoir fait un beau match quand même. Ouais.
Bah, quand t'en prends 3, t'es jamais trop content. Hein. Ouais. Mais par contre, ça arrive des fois. Mais tu sais, tu peux pas. Même si t'es mauvais et que ton équipe, et ça arrive au meilleur, ça généralement. Quand t'es mauvais, tu gagnes quand même. Tu peux passer à travers ton match. Si t'as gagné 4-3, bon bah voilà, ça c'est les grands gardiens, ça se passe comme ça. Mais par contre, si t'es tout le temps bon et tout, et puis que tu fais 2 erreurs, je vais pas revenir sur un certain gardien du côté de Nice. qui est très bon et tout, et puis tu prends un but entre les jambes, bah moi ça me fout les boules. Et puis en plus tu ramènes pas la victoire. Donc ça je supporte pas personnellement.
Tu le sens comment là, Lloris, à 8 jours du début de la Coupe du Monde, par rapport à son début de saison, hein, pas que ce soir, on est sur un Lloris quelle cuvée?
Moi je pense qu'il va être très très bon dans cette Coupe du Monde. Ouais. Je pense qu'il a une défense en bois à Tottenham déjà, ouais, pour commencer, donc c'est forcément compliqué pour je pense que ce serait pour n'importe quel gardien. Ce genre de compétition là, c'est pour lui, il connaît, c'est peut-être sa dernière d'ailleurs, hein. Même s'il veut pas le dire, mais je pense qu'il sait qu'à 35 ans t'es plus près de la fin que du début forcément. Donc je pense qu'il sera là au rendez-vous comme il l'avait été en 2018.
Kevin?
Ouais, juste Julien, Arsenal. C'est cette année ou pas?
Je sais pas si c'est cette année. Tu sais qu'à chaque fois qu'ils ont été champions d'automne, dans leur histoire, en première ligue, je parle, dans l'histoire de la première ligue, donc depuis 92-93, les cinq fois, c'est la sixième fois là, cette saison, les cinq fois précédentes, ils ont jamais été champions. Toutes les fois, ils ont été champions avec Arsène Wenger, c'était des fois où ils étaient pas en tête du championnat, à la mi-championnat, donc à Noël, avant le Boxing Day. Mais là, je dois reconnaître, c'est quand même très fort. William Saliba, qui est lui aussi chez les Bleus, j'en parle vite fait avant que Polo reprenne la main, mais il a fait une petite erreur à un moment, mauvais jugement dans sa passe, mais sinon il a été encore très très solide. Ils ont pas pris de but à Wolverhampton. Ils ont gagné encore une fois. Ils ont 5 points d'avance sur City, qui a perdu à domicile contre Brentford. Et c'est vrai, c'est une équipe qui m'impressionne, parce qu'elle est, en fait, c'est plus que la tactique mise en place et les circuits préférentiels d'Arteta et ce qu'ils font avec le ballon, ce qui est très très bien, mais c'est la maturité qui dégage. Moi, je trouve qu'il m'impressionne le plus dans la façon dont ils peuvent contrôler des matchs. Et même quand ils perdent un tout petit peu le contrôle, ils ont cette maturité aujourd'hui. Pourtant, c'est une équipe très jeune encore. Ils ont cette maturité de pouvoir gérer les temps forts, les temps faibles, de pas paniquer jamais, même quand ils jouent contre un bloc très bas comme aujourd'hui. Ça panique pas, ça attend le bon moment. Et dès qu'ils ont l'occasion, ou quasiment la deuxième occasion, ils la mettent au fond. Je trouve ça très, très impressionnant. Ils iront peut-être pas jusqu'au bout parce que City reste City. Mais pour l'instant, cette première partie de saison, elle est vraiment, vraiment impressionnante.
Ouais, 5 points d'avance, City qui a été battu par Brentford 2-1. Tu parlais de Saliba, son plutôt bon match. Les défenseurs français, hein, étaient à l'honneur aujourd'hui. Donc Polo nous en parlait avec le Bayern. Ils étaient 3 titulaires sur les 4 de la défense bavaroise. Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez. Pavard dans l'axe, Polo, c'est solide.
Moi, je suis pas fan.
Non, ouais,
ah, ouais, honnêtement, je suis pas fan. Vous savez, le premier match qu'il a fait, c'était attendez que je vous dise pas de bêtises.
Mais là, c'est dans l'axe à 4, quoi.
Ouais, il était dans l'axe à 4 et honnêtement, il avait pas le volume pour résister à Grunic, qui aujourd'hui est à Porto, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et c'était c'est pas son poste pour moi. Si tu veux, si tu joues dans une défense à 3, tu peux le mettre stopper droit. Je veux bien. Mais moi, je trouve que c'est... alors, il apporte pas si mal que ça lorsqu'il est au poste d'arrière droit, mais je suis pas fan absolu. Je pense que justement, il manque peut-être un peu de puissance lorsqu'il est en défense centrale. Maintenant, c'est bien ce qui se passe en ce moment, mais c'est parce que Mazraoui, qui était touché, n'était pas titulaire en ce moment, parce que De Ligt a été absent pendant un moment, Upamecano a été un peu douteux, mais je suis pas persuadé que ce soit un défenseur central, ou tout du moins, on va dire, c'est un remplaçant de luxe, il y a des blessés, ok, mais je le vois pas faire une carrière, une deuxième partie de carrière, au Bayern, en tout cas, au poste de défenseur central.
Sur Leipzig et Nkunku, donc, bon, qui n'a pas marqué aujourd'hui, ouais, on l'a compris, il a pas fait son meilleur match, t'as ouvert la petite porte à un débat, sur lequel nos éditeurs se sont engouffrés sur le Direct Studio, notamment. Nkunku, il devrait être titulaire à la place de Griezmann, les gars.
Moi, je pense, parce que faut voir son évolution. Il est beaucoup plus jeune. Griezmann à Grisou a eu des petits soucis de carrière depuis quelques temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de bien revenir, mais Nkunku.
Tu veux dire
en 10,
Polo?
En 10, oui, parce que la polyvalence d'Nkunku fait que il peut être attaquant de soutien, enfin, mais même Griezmann, de toute façon, il peut jouer à différents postes, c'est pas vraiment la question, mais il y en a un qui, pour moi, sera le successeur de l'autre. La question, c'est quand. Et moi, lorsque je vois Nkunku élu meilleur joueur de Bundesliga l'année dernière, déjà meilleur buteur de Bundesliga cette saison, et qui continue, alors là, bon, c'est un débat, je pense qu'on aura lundi, peut-être que certains mondialistes ont levé un peu le pied avant de partir, hein, pour cette dernière journée, parce qu'on annonce les listes que le championnat n'est pas fini, hein, c'est quand même un peu limite. Mais moi, Nkunku, au minimum en concurrence avec Griezmann, c'est un débat qui doit être ouvert, quoi.
Alors tu parles pour l'aspect offensif. Défensivement, tu le vois défendre autant que Griezmann pourrait le faire, parce qu'on sait que Dédé aime beaucoup aussi Griezmann pour tout ce qui ses sacrifices défensifs. Est-ce que tu peux faire ça aussi?
Non, mais moi je comprends. Mais moi Didier Deschamps, pendant qu'on y est, Griezmann, on peut le mettre défenseur central, quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut voir les caractéristiques des joueurs. Moi, je dis rien sur les joueurs qui méritent évidemment de partir au Mondial, mais les joueurs sélectionnés, je suis désolé. En Allemagne, il y a eu un papier qui est sorti par Spox où on dit la technique contre la force, mais on voit très bien le message subliminal qui a été envoyé à la France, quoi. Donc moi, le football, c'est pas des mecs qui font 1m95, 95 kilos, c'est pas ça. Un Griezmann, il fait Nkunku évidemment, mais c'est un peu comme Ribéry à l'époque. Dès qu'on augmente de niveau, il y a un moment les mecs vont se mettre à défendre, mais faut pas que ce soit au détriment de leur qualité offensive. Et il y a d'autres joueurs qui doivent défendre, mais après Didier Deschamps,
t'es bien content qu'il le fasse. Quand il y a un déséquilibre défensif, c'est lui, il rechigne pas pour le faire. C'est ce que je voulais dire. Nkunku, est-ce qu'il le fait? Tu peux pas l'accepter tout le temps, ce déséquilibre défensif quand même.
Mais le problème, mais regarde la qualité des joueurs offensifs que tu as. Kingsley Coman, Griezmann, Nkunku, Mbappé, Benzema, rien que ces cinq-là, tu dois en choisir. Déjà, on en met trois au lieu de cinq, tu vois. Tu pourrais penser avoir des schémas plus offensifs. Alors, je sais qu'en France, dès qu'on dépasse les 50 mètres, c'est un peu compliqué. Mais, je sais pas, il y a d'autres pays qui font plaisir au football. On s'éclate pas avec la France.
Et puis, de toute façon, on a quelques défenseurs centraux à mettre, t'en fais pas.
Il y a tout ce qu'il faut.
Ouais, on a Pavard dans l'axe.
En tout cas, petit avant-goût du débat que vous aurez probablement lundi soir dans Génération After spécial Drôle de Dame. Comme toutes les semaines entre 20h et 22h. Paulo Breitner et Julien Laurence y seront évidemment. Merci les gars d'avoir été là ce soir.
Merci.
Salut les gars. Salut, rendez-vous lundi dans Génération After. Je voudrais vous donner une dernière info là. Selon le journal L'Équipe, Marco Verratti est proche d'une prolongation au Paris Saint-Germain.
Encore?
Son contrat s'achève en 2024. Il prolongerait jusqu'en 2026. D'après L'Équipe, serait même peut-être signé avant la reprise de décembre, j'allais dire pendant la Coupe du Monde.
Il a fait combien de prolongations, Marco Verratti?
Ça fait 10 ans qu'il est là.
J'ai l'impression qu'il
Marco, il va pas se blesser pendant la Coupe du Monde.
Il a prolongé tous les 2 ans.
Attention, Verratti, c'est parce qu'il sait quoi que maintenant il est rangé, comme on dit. Kevin, Lionel, merci beaucoup les gars, c'est fini pour ce soir.
Salut les gars.
Bonne soirée à vous.
Salut à tous.
Merci à Max et Toto en régie. Je vous rappelle que les podcasts des clubs sont toujours dispo. After Marseille, After Lyon, After Paris. Je vous rappelle que le dispositif d'RMC sera exceptionnel pour la Coupe du Monde. Ce sera ici qu'il faudra suivre ce mondial. Merci d'être là comme tous les soirs. L'After revient demain dès 20h pour l'affiche de cette 15e journée de Ligue 1 entre Monaco et Marseille. Bonne nuit l'équipe. Ciao.